16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter, en compagnie d'un garçon extrêmement créatif et qui, je sens, va encore nous le prouver aujourd'hui. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Écoutez, oui, j'espère être à la hauteur de vos espérances en vous annonçant notre thème du jour. Un jeu de mots que j'ai trouvé et qui, je pense, m'ouvre les portes d'une belle carrière sur Rire et Chanson. Jeu de mots que voici, Bornéo to be alive. Ils ont vécu à Bornéo.
Ah oui, là, alors là, Mathieu, c'est sûr, ils vont vous appeler.
Ah, je pense
mais
bien.
Mais bon, restez encore avec nous pour ces deux prochaines heures.
Si vous voulez.
Je vais vous présenter nos personnages du jour qui ont passé une partie de leur vie sur l'île de Bornéo. À commencer par celle qui en fut reine, ou plutôt Rani, comme il est de coutume de dire, dans cette île de Malaisie. Margaret Brooke, une aristocrate franco-britannique qui a suivi son mari à Bornéo, un voyage au pays des coupeurs de tête qu'elle a gardé dans la sienne, et raconté dans ses mémoires, puis... Lui a écrit aussi, c'est l'ancien marin devenu écrivain Joseph Conrad qui a posé les pieds à Bornéo et a figé l'île et quelques-uns de ses héros sur le papier, donnant vie à ce qui reste aujourd'hui l'un de ses plus grands romans. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une vedette plus proche de nous et qui est vraiment née à Bornéo.
Oui Stéphane, je sais que souvent le dimanche vous lui rendez visite, elle est très âgée, très poilue.
Nana Mouchkouri.
Mais non, Stéphane. Gendarmez-vous, je pensais à Nénette, la célèbre orang-outan du Jardin des Plantes à Paris. Elle est célèbre, c'est vrai, mais pas autant que Nana.
Elle a vendu moins de 10 surtout. Avec nous comme chaque jour, eux aussi sont célèbres à leur manière.
Et c'est un peu célèbre à leur manière, c'est vraiment méchant.
Mais non, si vous voulez.
On est célèbre, on n'est pas célèbre Stéphane.
Votre orang-outan est célèbre pour ses poils, pour...
Il est célèbre à la ménagerie du Jardin des Plantes,
voilà.
À l'échelle de Paris.
Eh bien, Clémentine Portier-Kaltenbach est célèbre pour autre chose que la ménagerie du Jardin des Plantes. Elle entre dans l'intimité de l'histoire.
Oui.
Bonjour Clémentine.
Ouais, bonjour Stéphane, je vous remercie de me faire passer après Laurent Houton du Jardin des Plantes, qui, au demeurant, étant ma voisine à Paris, après
ah,
tout.
Oui, c'est vrai que c'est dans le cinquième.
Et Bornéo, oui, moi ça m'a fait penser à d'autres destinations lointaines, exotiques, qui font rêver comme Pondichéry, Chandernagore, Zanzibar. Oui. Hein. Bah aujourd'hui, suivez-moi à Zanzibar, parce qu'à Zanzibar s'est déroulée la guerre la plus courte de l'histoire de l'humanité. Une guerre qui dura exactement 38 minutes entre 9h02 et 9h40, le 27 août 1896, et qui opposa le sultan Khalid Ibn Barghash aux troupes de la reine Victoria, qui ne rigolait pas avec les frontières de l'Empire britannique.
Est-ce que c'est cette fameuse guerre où on s'est rendu compte que on n'avait jamais signé la paix et que ça s'est signé il y a quelques années, justement.
Je ne pense pas que ce soit
celle-là. Il y a une autre guerre avec les Britanniques.
Les Britanniques boutent le feu partout où ils passent.
Oh là, on sent une descendante de Napoléon. Alors, avec nous, David Castello-Lopez, qui remonte aux origines de ce qui fait notre vie quotidienne.
Et... Oui, ce qu'il a fait peut-être un peu plus dans l'enfance, mais c'est vous vous souvenez des trains fantômes?
Oui.
Des trains fantômes, oui. Ces petits trains dans lesquels on est dans le noir, et puis il y a des squelettes qui tombent du plafond.
Et on hurle.
Et on hurle, des
vous
éclairs.
Vous avez déjà fait un train fantôme,
Stéphane? Ah oui, bien sûr.
Moi, jamais.
Non.
Moi, quand j'étais enfant, toujours d'ailleurs aujourd'hui, je suis très peureux. Et quand j'étais enfant, je ne voulais jamais faire le train fantôme. Tout le monde voulait m'entraîner et je trépignais.
Heureusement que vous êtes né en Suisse. Hein, parce qu'on ne vous aurait pas emmené à Verdun. On lui a fait le train fantôme. Lui.
Non, en revanche, il a combattu sur le front, mais le train fantôme, c'était pas possible.
Fantôme, non, c'est ma limite.
Avec nous, avec Olivier Pouls, évidemment, on remonte aux origines d'un plat, d'une recette, d'un mets. C'est culinaire.
Oui, on va parler du mocha. Alors, oui. Le mocha, c'est évidemment un gâteau, mais c'est aussi un café.
Un café, le mocha du négus.
Ah, c'est un type de café, c'est un type de grain.
Alors, c'est pour ça qu'il y a une forme de confusion.
Ah,
oui, c'est c'est le café d'origine, en fait. Hein.
Ah, c'est le premier café.
Oui, c'est le premier café.
Et il est quoi? Il est éthiopien?
Il est éthiopien,
ah, ouais. C'est pour ça qu'on l'appelait le mocha du négus.
Du négus, dont on a parlé. Voilà. Ah, c'est magnifique. Eh bien,
je raconterai son histoire.
On a hâte d'entendre cette très belle histoire de café, de mocha, plus précisément, Olivier Pouls. On jouera, évidemment, avec l'histoire dans Bern to be Alive, puisque Clémentine essaiera de détrôner Stéphane Bern dans ce quiz qui se livre chaque après-midi. Mais découvrons déjà notre premier personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Le poète Oscar Wilde lui a dédié un conte de fées, bien que sa vie à elle n'en fût pas un. Partie d'Europe, c'est à Bornéo qu'elle a suivi son mari pour devenir là-bas souveraine d'une partie de l'île de Malaisie. Stéphane Bern nous son paréo et nous raconte Margaret Brooke, la reine de Bornéo.
Un fleuve de petits singes qui sautent de branche en branche, quelques maisons aux toits de chaume reliées entre elles par des hommes pagayant sur des canoës. Et soudain, sur la rive droite, au sommet d'une colline, un fort, un bazar chinois, toute une ville au port encombrée de jonques chinoises, pirogues malaises, barges, petits voiliers. Arrivant d'Angleterre, Margaret Brooke découvre ce jour-là, et pour la première fois, en 1870, son royaume du Sarawak, niché au nord de l'île de Bornéo. Bornéo. Un gigantesque bout de terre à l'autre bout de la terre. Un paradis aux eaux turquoises traversées d'une haute chaîne de montagnes plantées de forêts luxuriantes. Là-bas, entre les territoires indonésiens et malais bordés par la mer de Java, Margaret est bien loin de son Europe natale. Margaret Alice Lilly est née en 1849 à Paris. Elle est la fille du capitaine Jennings, un militaire britannique, et de Elizabeth de Wint, riche héritière de l'aristocratie française. Elle a une quinzaine d'années lorsqu'il s'installe en Angleterre. C'est là que Charles Brooke, un parent revenu d'Asie, rend visite à la famille et propose à Margaret de l'épouser. Elle n'a pas encore 20 ans, lui en a 46. Les noces ont lieu à l'automne 1869 dans la petite église de Highworth, dans le Wiltshire, entre Londres et Bristol. Quelques mois plus tard, au printemps, elle entreprend la longue traversée qui l'amène à Singapour d'abord, puis jusqu'au petit royaume de son mari situé au nord de l'île de Bornéo. Charles Brooke en est le Raja, le souverain. Il est pourtant britannique, lui aussi. Il a grandi en Angleterre, qu'il a cependant quitté dès l'âge de 13 ans pour rejoindre la marine. Après 10 années au sein de la Royal Navy, il s'établit définitivement dans ce petit royaume d'Asie, fondé par son oncle moins de 30 ans auparavant. L'oncle en question, James Brooke, navigue sur une goélette autour de Bornéo et monnaie avec le sultan de Brunei, en échange de ses services militaires pour écraser une rébellion, le droit d'installer une colonie dans l'embouchure du fleuve Sarawak. En 1841, le royaume indépendant du même nom est né, et Charles, son neveu, en hérite en 1868, devenant à 32 ans le deuxième Raja blanc du Sarawak. Par son mariage, Lady Brooke en devient officiellement la première Rani. Margaret est malade durant presque tout le voyage qui l'amène vers ses terres lointaines et inconnues. Elle passe par Alexandrie en Égypte, par Aden au Yémen, profitant du passage par le tout récent canal de Suez ou encore par le Sri Lanka, qu'on appelait Ceylan à l'époque. À Singapour, Margaret Brooke rencontre la bonne société, les commerçants établis dans la colonie, mais reste choquée par les manières de ces Anglais qui, affalés dans leur fauteuil en bambou, fument des cigares et boivent du soda mélangé au cognac. La dernière partie du voyage, deux jours de bateau sur les eaux plus calmes du fleuve, la conduit enfin au Sarawak. Un tout nouveau palais, l'Astana, est fin prêt pour accueillir sa reine. Il faut encore attendre quelques jours pour que les meubles arrivent d'Angleterre et le remplissent. Rapidement, la vie s'organise dans la belle villa montée sur pilotis et les odeurs de lys rouge et blanc, des gardénias et des jasmins à l'ombre des bambous et des palmiers. Dans la salle de bain, une sorte de douche sommaire remplace la baignoire. Pour les Anglais sur place, la Rani organise chaque semaine une réception autour d'une tasse de thé. C'est le mardi après-midi. Margaret Brooke accouche d'abord d'une petite fille en septembre 1870, puis de jumeaux un an et demi plus tard. Mais les jours heureux ne durent pas. La Rani de Sarawak souffre de paludisme et doit quitter son nouveau pays un peu plus de 3 ans après l'avoir découvert. Le pire est à venir, Mathieu.
Oh non.
Sur le chemin du retour qui les mène en Angleterre, ses 3 jeunes enfants décèdent du choléra, sans doute contaminés par du lait infecté. Malgré sa détresse, Margaret Brooke reprend le cours de sa vie dans la campagne britannique, puis à Londres. Elle accouche d'un nouvel enfant en septembre 1874. 6 mois plus tard, il est temps de repartir avec son mari dans le royaume tropical. Au Sarawak, 2 autres garçons viennent au monde. Là-bas, la souveraine côtoie le peuple Dayak, ceux qu'on nomme en Europe des sauvages ou des coupeurs de têtes, parce qu'ils ont pour coutume, dans certains cas, de conserver les têtes des personnes qu'ils ont tuées. Oui. Margaret Brooke encourage les femmes dans leur production de tissus locaux et les préfère pour ses tenues aux étoffes venues d'Angleterre. Elle documente leur vie au travers de belles photographies qu'elle prend elle-même. Avec son mari, la Rani explore aussi le nord du territoire et suit les cours d'eau aux noms exotiques de Batanglupa ou de Baram qui ne figurent encore sur aucune carte de géographie. Elle n'hésite pas à prendre son bain en plein air dans la jungle, se plaignant tout de même des sangsues qui s'accrochent à elle. Enfin, quand vous êtes reine, il y en a forcément. Descendant en bateau les rapides d'un fleuve, elle s'en amuse, malgré les dangers. Pour voyager, Margaret porte toujours sa tenue malaise, un sarong pour le bas du corps et une veste bien loin des encombrantes crinolines des élégantes londoniennes de l'ère victorienne. Mais sa santé décline. et les relations avec son mari, dont elle n'a pour ainsi dire jamais été amoureuse, et c'est réciproque, ne sont pas au beau fixe. Si la Rani a toujours fait des allers-retours entre Londres et l'Indonésie, elle quitte définitivement le Sarawak en octobre 1895. Margaret a alors 46 ans, son fils aîné en a 20 et se forme à prendre la suite de son père à la tête du royaume. Revenue en Europe relativement libérée de ses devoirs de mère, d'épouse et de souveraine, on pourrait penser que la vie de Mrs. Brooke est un peu moins palpitante que sous les tropiques. Et pourtant, pour elle, c'est une nouvelle carrière qui s'annonce. Lors de ses voyages en Angleterre, Margaret Brooke a toujours fréquenté la bonne société londonienne, introduite aussi par son frère, l'aventurier Harry de Wint. Dans les dîners et les bals, on lui déroule d'ailleurs le tapis rouge. Son mari est tout de même le souverain d'un État indépendant et elle est reine, même si c'est d'un pays très lointain. En mars 1875, elle a même été présentée à la reine Victoria en tant que Rani de Sarawak. Margaret se rend dans les théâtres, les concerts et les hôtels de luxe, y compris à Paris, où elle séjourne en haut des Champs-Élysées et fréquente la vieille aristocratie et les auteurs à succès, comme Guy de Maupassant ou celle qui deviendra son amie, Alice de la princesse Alice de Monaco, l'écrivain Pierre Loti qui lui fait le récit de ses voyages en Orient et sur l'île de Pâques. L'écrivain lui dédie d'ailleurs l'un de ses textes dans son ouvrage « Japonnerie d'automne ». La reine malaise mène en Europe une carrière de femme de lettres. Oscar Wilde aussi dédicace à Lady Brooke l'un des contes de son recueil « La maison des grenades » publié en 1891. À Londres, elle sert d'interprète à la célèbre comédienne Sarah Bernhardt et lui traduit les compliments de ses admirateurs anglais. Il y a une chose qui m'a toujours qui m'a amusé, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est que elle a tellement de hauts chapeaux, la pauvre Sarah Bernhardt, qu'elle entre pas dans les coupés de la reine de Sarawak. Mais enfin bon, c'est une autre histoire. Margaret n'est pas que spectatrice. Elle se produit aussi dans des concerts privés. C'est une excellente pianiste et elle enregistrera même dans les années 1930 des valses de Strauss et une sonate de Beethoven. Et surtout, elle écrit. En 1906, elle rend hommage à cette terre du Sarawak et à ses habitants dans un article du prestigieux magazine Strand. Quelques années plus tard, elle publie un premier texte, « Ma vie au Sarawak », suivi d'une autobiographie en 1934, deux ans avant sa mort. La Rani y évoque ses souvenirs d'un royaume qu'elle a quitté depuis près de 40 ans déjà. Elle s'éteint dans sa maison londonienne à l'âge de 87 ans. Le lendemain, le Times rend un hommage à l'une des dernières grandes figures d'une époque révolue, celle de l'ère victorienne. Comme épitaphe, Margaret Brooke aurait pu choisir cette citation du peintre Edward Burne-Jones, un autre de ses illustres amis, qui la définissait comme la femme dont l'équateur traversait le jardin.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Margaret Brooke, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane, l'historien Alain Kellavillégier. Bonjour Alain.
Bonjour.
Bonjour Alain Kellavillégier. Vous êtes spécialiste des récits d'exploration et je dois rappeler quand même le biographe qui fait référence de Pierre Loti. Vous signez la postface des mémoires de Margaret Brooke qui viennent de paraître en français aux éditions Magellan et compagnie. Quand elle débarque à Bornéo en 1870, Margaret Brooke est cette jeune aristocrate franco-britannique totalement imprégnée des codes d'ailleurs de l'époque victorienne. Comment elle décrit le royaume de Sarawak et sa nature à la fois exotique et hostile dans ses mémoires?
Oui, elle essaie d'en tresser un portrait, on va dire, sympathique, avec beaucoup d'empathie pour un royaume que même qui lui apporte une belle aventure de vie. Mais évidemment, c'est un milieu très hostile du point de vue du climat. On est en région équatoriale, il y a des sangsues, vous avez parlé tout à l'heure des orangs-outans, il y a des crocodiles, le milieu est tout de même très très néfaste pour la santé, et il y a le choléra, beaucoup de soucis. Donc, mais elle essaie de faire, parce qu'elle est positive toujours, elle essaie de faire un portrait positif de ce royaume qui est celui de son mari.
Quel regard elle porte sur les populations locales? Vous écrivez qu'elle se lit davantage avec ses amis malaises qu'avec la bonne société européenne qui est sur place. Pour l'époque, ça paraît assez novateur quand même.
Alors, les amis malaises, ce sont elles-mêmes des femmes de la haute société musulmane du Sarawak, mais c'est vrai que Margaret Brooke a tout de suite beaucoup de sympathie pour le peuple, pour les populations indigènes. Elle n'est pas raciste.
Et elle c'est refuse... fort de ne pas être raciste à l'époque déjà, parce voilà. que c'est, le racisme
mais
était...
C'est un des aspects d'ailleurs sympathiques de cette femme, et c'est pourquoi on cherche à la faire connaître, parce que elle est transgressive à bien des égards. Et donc les populations indigènes, les Dayak, les populations de coupeurs de tête, elle essaie de les comprendre, en tout cas elle ne les traite jamais comme des sauvages.
Margaret Brooke publie deux récits sur sa vie à Bornéo, le premier en 1913 et le second en 1934, deux ans avant sa mort. Qu'est-ce qui fait l'originalité de ses mémoires? Vous dites vous-même qu'elle n'a pas été une femme de lettres brillante. Alors, où se trouve précisément l'intérêt du texte?
Alors, si nous avons souhaité traduire ce texte qui était inédit en français, c'est parce que ce texte nous a paru extrêmement intéressant. C'est la vie d'une femme qui, évidemment, alors qu'elle est octogénaire, fait le bilan d'une vie et en retient les moments forts, mais aussi les drames. Ça n'est pas une femme de lettres au sens où, je veux dire, ça n'est pas Conrad, évidemment. Il s'agissait pas de faire découvrir un écrivain majeur qui aurait été oublié. Mais elle est cultivée, elle écrit très bien, son récit est fluide, il est captivant. Et c'est un témoignage tout de même de première main, inédit en français et très peu connu d'ailleurs en Grande-Bretagne aujourd'hui, et qui vaut la peine. Je veux dire, cette vie d'anglaise aristocrate qui se retrouve plongée au milieu des forêts tropicales comme ça de l'Asie du Sud-Est, c'est tout de même en soi une aventure de vie extrêmement romanesque.
Et comment le public de l'époque accueille la publication du récit de Margaret Brooke
en 1934, lorsque cela paraît, elle commence à être, oubliée, où on est tout de même loin maintenant de l'époque victorienne, on est dans le registre tout de même de la nostalgie. Mais enfin, le royaume existe toujours, son fils en est le Raja. C'est perçu tout de même comme quelque chose d'anecdotique à l'autre bout du monde, et tout de même dans les années 30, le contexte mondial est en train de changer beaucoup à tout point de vue.
Dans la postface des mémoires de Margaret Brooke que vous signez, vous écrivez que sa personnalité, pour le moins originale, sinon transgressive, l'engage à soutenir certaines causes très progressistes, à commencer par la cause des femmes.
Oui, elle est d'un milieu aristocratique et à certains égards, on pourrait l'attendre sur des valeurs beaucoup plus traditionnelles ou réactionnaires parfois, alors que c'est une femme très libre à bien des égards. Effectivement, elle soutient la cause des femmes, le droit de vote des femmes. C'est pas une suffragette, c'est plutôt une suffragiste. Hein. Elle est pas pour la révolution et elle est pas pour se balader dans la rue avec des pancartes ou des banderoles. Lorsqu'il y a l'affaire avec Oscar Wilde, elle lui cherche un avocat au moment de son procès pour homosexualité. Elle est justement pas raciste, je l'ai dit, elle est très attentive à faire connaître ces populations indigènes et leur culture, à prendre au sérieux les valeurs de ces peuples-là. Donc voilà, ce sont des valeurs qui aujourd'hui nous parlent et qui donnent une part de sa modernité.
Dans le même temps, c'est vrai que, je l'ai raconté, l'époux de Margaret Brooke, Charles, a 26 ans de plus qu'elle, et elle écrit dans ses mémoires qu'ils n'ont jamais été amoureux l'un de l'autre. C'est un mariage arrangé.
C'est un mariage de circonstances.
Est-ce qu'on lui connaît d'autres liaisons? Est-ce qu'elle a été, on peut espérer, quand on découvre son portrait dans ce livre, on a envie qu'elle ait été heureuse quelques instants, vous voyez, qu'elle ait eu au moins connu un peu le bonheur?
Alors, dans une autobiographie d'une femme octogénaire, c'est pas forcément le lieu de certaines révélations intimes.
Ouais. Mais vous êtes un peu trop tard.
Pour ce que nous savons de sa vie privée, bien sûr qu'elle a eu, d'abord parce qu'elle est rentrée vivre ensuite à Londres et que son mari reste au Sarawak, elle a eu des liaisons, on connaît deux ou trois noms d'auteurs ou de journalistes avec lesquels elle a eu des liens très intimes. On peut penser qu'elle a été heureuse de façon privée comme ça. Elle, lorsqu'elle parle de ses grands bonheurs, ça a été son enfance, puisqu'elle est née à Paris et qu'elle a vécu une dizaine d'années à Épinay-sur-Orge. Et puis, les moments très, très courageux ou fantasques lorsqu'elle remonte les fleuves là-bas au Sarawak et les moments d'aventure, en quelque sorte. Mais elle est positive, je l'ai dit tout à l'heure. Donc son mariage, elle n'en attendait pas de l'amour et il n'y a pas eu d'amour.
Et comment on pourrait définir la politique menée par Charles Brooke, l'époux de Margaret, pendant ses 49 années de règne au Sarawak? En tant que Britannique à la tête d'un État exotique, est-ce qu'il adopte, lui, pour le coup, une posture de colonisateur?
C'est ambivalent. D'abord, il est l'héritier lui-même en tant que neveu de James Brooke qui a fondé ce royaume. Et les deux ont eu une posture à la fois, je dirais, un petit peu anticoloniale, c'est-à-dire prenant leur distance vis-à-vis de la couronne britannique, mais en même temps s'appuyant sur elle pour avoir de la sécurité militaire, par exemple. Ce sont tout de même des gens de culture anglaise. Et puis, je dirais, dans le cas de Charles Brooke, il y a posture peut-être de despote éclairé, c'est-à-dire à la fois vouloir faire du Sarawak un royaume qui ait une grande part d'indépendance, respectant les cultures indigènes, ne cherchant pas à imposer la langue anglaise par exemple, mais en même temps organisant un système, un état de droit avec une police, avec un peu d'armée, avec une administration moderne. Donc c'est un Raja qui veut être respecté, qui tient beaucoup à son autorité, et en même temps qui va assurer au Sarawak une certaine identité qui mène jusqu'à aujourd'hui. D'une certaine façon, si le Sarawak a une part d'identité forte aujourd'hui dans la Malaisie, c'est le résultat du règne notamment de Charles Brooke, qui a quand même régné presque 50 ans.
Il n'a jamais été contesté par les tribus locales?
Si, bien sûr. D'abord parce que les tribus se contestaient entre elles. Il y a des guerres intertribales et il en joue, bien entendu. Il y a aussi des révoltes de populations chinoises du point de vue du commerce. Bon, la situation est loin d'être une situation confortable, mais justement, son point fort, c'est peut-être d'arriver à organiser une certaine harmonie, une un certain calme, une certaine paix sociale dans un royaume qui a été complètement construit de façon très artificielle.
Mmh. Mais il y a un côté très amusant dans les mémoires, c'est qu'à un moment on sent que le Raja du Sarawak, il est très embarrassé par sa femme parce qu'elle devient très vite très populaire et il est dépassé par une sorte de Diana qui lui vole la vedette. Hein.
Elle a su créer des liens très forts avec les aristocraties, notamment des femmes malaises, mais aussi se faire respecter des populations indigènes. Elle traverse le fleuve, elle va faire ses courses en face, en quelque sorte, dans les quartiers indiens, chinois et autres. Elle a une proximité, elle a une visibilité. Le Raja, évidemment, veut absolument garder, lui, sa distance, et son autorité, sa supériorité. Elle a créé une forte image, effectivement, et une sympathie qui dure jusqu'à aujourd'hui, puisqu'un musée lui est réservé et consacré à Kuching, dans la capitale.
Donc, en fait, à l'époque des Rajas blancs, le royaume de Sarawak est donc un État indépendant. La couronne britannique a jamais cherché à mettre la main dessus, et parce que on voit que Brunei voisin a été pendant très longtemps un protectorat britannique avant que le sultan
Le Sarawak a une sorte de statut de vassalité par rapport au sultan de Brunei. Il est évident que la couronne britannique a toujours souhaité faire du Sarawak une colonie à part entière, mais justement le Charles Brooke a tout fait pour l'éviter. Donc on est dans une situation un petit peu ambivalente d'une sorte de protectorat qui garde son indépendance entre guillemets vis-à-vis de la couronne, mais qui est tout de même très lié. Le Sarawak ne deviendra vraiment une colonie à part entière que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après l'occupation japonaise et très peu de temps avant l'indépendance de la Malaisie, et le Sarawak sera rattaché à la Malaisie. Donc le Charles Brooke a réussi ce tour de passe-passe, en quelque sorte, d'être très très lié à la couronne britannique et d'en obtenir des financements, des subsides, des soutiens, et en même temps de garder au Sarawak son autonomie économique, ne pas complètement être dépossédé par des grandes sociétés de plantation ou l'économie des mines, etc., qui auraient complètement exploité le territoire. Il voulait que les populations locales gardent leur vie économique.
Mais pour autant, la Malaisie, si je ne m'abuse, est toujours une monarchie, élective d'ailleurs, puisque le roi de Malaisie, mais le roi de Malaisie est élu parmi ses pairs qui sont tous les sultans de Malais,
Oui, c'est un système très particulier.
Très particulier, oui, c'est exactement ça. Mmh. Et donc le Sarawak est toujours dans la famille ou
Oui, à part entière. Je ne sais pas si récemment un des rois de Malaisie a pu être originaire de Sarawak, je ne pense pas. Mais il y a un gouverneur qui représente la monarchie au Sarawak. Mais c'est un système fédéral en même temps. Et donc le Sarawak, étant lui-même insulaire par rapport au reste du continent, le Sarawak a une grande autonomie.
C'est Weiner Brooke, le dernier fils de Margaret et Charles, qui succède à son père sur le trône du Sarawak. Combien de temps il va y avoir des Rajas blancs qui vont régner encore sur cette partie de Bornéo?
Il y a trois générations. Il y a eu le fondateur James Brooke, donc c'est en 1841. Ensuite Charles, dont nous vous avons parlé, qui règne une cinquantaine d'années, et puis Weiner qui perd le pouvoir ou qui le laisse en 1946. Bon, enfin, il était déjà perdu en 1941 avec l'arrivée des Japonais. C'est un peu comme pour les entreprises dans les romans de Thomas Mann. Hein. Il y a le fondateur, il y a le fils qui développe et il y a le petit-fils qui dilapide. Le troisième règne est un règne qui s'effiloche à tout point de vue.
Et donc, en fait, la politique mémorielle est aujourd'hui plus favorable à la famille de Margaret Brooke, c'est-à-dire qu'un musée est consacré à son histoire.
C'est une mémoire entretenue. D'abord, les édifices, les bâtiments, les forts de l'époque coloniale sont parfaitement restaurés et font partie du patrimoine qui se visite. Il y a un musée consacré à la Rani, il y a un musée aussi qui est consacré au Brooke en général. Donc les autorités, peut-être aussi pour des raisons même touristiques, entretiennent parfaitement cette mémoire. Je crois que c'est d'abord un discours tout de même des en quelque sorte politique. La population locale sans doute s'y intéresse un petit peu moins, mais enfin les Brooke ne sont pas rejetés, ils font partie de ce qui a constitué le Sarawak d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Alain Kelavillégier de nous avoir emmené dans cette nature luxuriante de Bornéo à la rencontre de Margaret Brooke. Je rappelle, et c'est vraiment votre victoire, parce que je sais que vous militez depuis des années pour que soient publiés en français les mémoires Reine à Bornéo, souvenir d'une vie singulière, dont vous signez la postface et qui est disponible aux éditions Magellan et compagnie.
Je vous remercie.
Merci
beaucoup.
À vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans jamais faire de raccourcis. c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous prenez le temps de nous raconter la guerre la plus courte de l'histoire. Top chrono.
Ah oui, parce que la plus longue, ça serait compliqué. Quelle est
la guerre de 100 ans.
Mais elle a duré combien de temps?
117 ans. Plus de 100 ans.
117 ans.
116. 116 ans entre 1337
un point supplémentaire dans le
et 1453. Bon, et oui, les moins connues, la guerre la plus courte de l'histoire, c'est la guerre anglo-zanzibarite qui se limita à un bombardement de 38 minutes entre 9h02 et 9h40 le 27 août 1896. Une trentaine d'années plus tôt, la France et l'Angleterre avaient signé un traité garantissant l'indépendance du sultanat de Zanzibar. Zanzibar, est-ce que vous voyez où c'est? Oui. C'est cette île, ce pays insulaire de l'océan Indien qui est situé au large de ce qui s'appelait autrefois le Tanganyika. Ça aussi, ça faisait...
C'est
dans la chanson... Oui. C'est pas dans une chanson de Sardou, là, oui. le Tanganyika. Tanganyika, voilà. Donc, je crois que c'est Sardou. La seule façon dont on connaisse le Tanganyika. Sardou. Alors, dites-vous bien qu'aujourd'hui, ça fait partie de la Tanzanie. Voici ce qu'écrit le très impartial Jules Cochery dans la thèse qu'il consacre en 1903 à la situation internationale de l'Égypte et du Soudan. Après 1862, l'Angleterre n'eut autre pensée que de supplanter à son profit l'influence morale que la France avait longtemps exercée sur le sultanat. L'armée zanzibarite fut confiée à un officier anglais, les administrations publiques à des employés anglais et la politique du sultan Bargache fut dirigée par Sir John Kirk, consul général britannique. Et Jules Cochery de conclure, les progrès de l'anglicanisation furent rapides. Et oui, hélas, maudits anglais. Autant vous dire que pour nous, à Zanzibar, pour nous Français, les carottes étaient cuites. Mais tout de même, en échange de la reconnaissance de leur mandat sur Zanzibar, les Anglais acceptèrent de reconnaître en 1890 le mandat français sur Madagascar. Donc on avait quand même pas tout perdu dans cette histoire. Mais en même temps que leur mandat, les Britanniques ont négocié un droit de veto sur la nomination des futurs sultans. Et oui, pas folle la guêpe. Et c'est cette cruciale question du veto qui va déclencher la blitzkrieg anglo-zanzibarite. Ahmad, sultan pro-britannique de Zanzibar, meurt à 11h40 le 25 août 1896. Alors que les Anglais souhaitent lui voir succéder un certain Hamoud Ibn Mohamed, qui leur est tout dévoué, eh bien c'est un certain Khalib Ibn Bargache, cousin germain et beau-frère du défunt, qui pénètre dans le palais et s'autoproclame sultan. Alors pendant, faut imaginer la scène, pendant qu'on célèbre à 14h30 les obsèques de son prédécesseur, lui à 15h, Khalid, il annonce sa prise du pouvoir par une salve de canon. Mais les Anglais sont pas du tout d'accord. Ils considèrent cette autoproclamation intempestive comme un casus belli. Ils prient ce monsieur de déquerpir au plus vite. Mais au lieu de cela, l'aspirant sultan se barricade dans le palais, constitue une petite troupe de gardes, de civils, de serviteurs, d'esclaves, en tout de même près de 2800 combattants, plus ou moins rompus à l'exercice des armes. Et il dispose de plusieurs mitrailleuses, un petit canon de bronze qui date du XVIIe siècle, et deux petits canons offerts au défunt sultan par le Kaiser Guillaume II. Vous imaginez comme on peut résister aux Anglais dans ces conditions. Alors, ils pointent leurs petites pétrolettes sur les navires britanniques, mais enfin, les navires britanniques, il y a trois croiseurs, deux canonnières, 150 fusiliers marins, 900 soldats zanzibarites, et les Anglais lui donnent un ultimatum qui doit expirer à 9h le 27 août, à 9h02. Les forces britanniques commencent à bombarder le palais, qui prend feu, tandis que les canons zanzibarites sont détruits. Durant un bref affrontement naval, les Britanniques coulent plusieurs navires zanzibarites. Les tirs cessent à 9h40. Le bilan incroyable de cette guerre est clair. C'est qu'il y a quand même 500 victimes du côté du sultan rebelle, alors que côté anglais, il y a un marin anglais qui est blessé. Bon, alors évidemment, dès les premiers coups de canon, le plus qu'éphémère sultan a couru se réfugier au consulat allemand. Le consul refuse de le livrer aux Britanniques. Il va l'aider à quitter Zanzibar. Il attend la marée haute pour que le sultan n'ait pas à mettre le pied sur le territoire zanzibarite anglais, mais puisse partir directement depuis l'Allemagne par la mer dans un canot. Et il va se réfugier au Tanganyika. Mais les Britanniques n'ont pas dit leur dernier mot. Ils captureront Khalid 20 ans plus tard. En 1916, ils l'expédieront d'abord aux Seychelles, Ils sont rancuniers, les Anglais. Et vous savez où ils l'ont envoyé ensuite?
Expédié aux Seychelles,
le pauvre
c'est plutôt
Khalid.
Sympa. Hein.
Ah bah oui, bah non, mais il n'est pas resté longtemps aux Seychelles. Puis ah. Surtout en 1916, il n'y avait pas les complexes hôteliers qu'il y a de nos jours.
Non, il n'y avait pas.
Après les Seychelles, vous savez où ils l'ont... Ces salauds d'Anglais ont envoyé le malheureux Khalid. Non, à Sainte-Hélène.
Ils ont l'habitude.
Le sultan d'un jour allait rejoindre la grande ombre d'un autre souverain déchu. Et oui, Khalid in Bargash et Napoléon, les deux grands exilés de Sainte-Hélène, destination largement aussi évocatrice que Zanzibar, Chandernagore et Bornéo.
Magnifique.
C'est magnifique. Merci, et je crois qu'on peut écouter quand même le grand spécialiste de l'Afrique.
Afrique,
ça vous rappelle des souvenirs, vous êtes né en Afrique.
Oui.
Vous écoutez Michel Sardou.
Exactement.
C'est bien le rapport de cause à effet.
Exactement.
Évidemment.
Tout le monde écoute Michel Sardou.
Où sont les eaux bleues du
Canada? Et là, on est pile à 6 minutes, vous avez fini donc il y a 20 secondes, c'est magnifique. Bon, on commence le quiz à égalité pour une fois.
Tout de suite. 16h, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Le jour de ses funérailles, après avoir porté le cercueil et conduit lui-même le corbillard, Stéphane Bern ouvrira l'oraison funèbre de Clémentine Portier-Kaltenbach par ces mots.
Clémentine, alors.
Est-ce que ce sera positif ou négatif? L'histoire nous le dira. En attendant, aimons-nous vivants, jouons à Bern to be alive. Et pour une fois, les compteurs sont à zéro au moment de commencer ce quiz. Stéphane, vous qui êtes un homme prêt à vous battre pour vos idéaux, un véritable émeutier. À Nottingham, en Angleterre, en 1766, il y a eu les émeutes de l'orge, les émeutes du fromage ou les émeutes des pissenlits.
1766.
Alors, c'est un peu comme en France à cette époque, il y avait la disette. Donc, on a dû manquer d'orge, peut-être. Se révolter pour du pissenlit, je trouve que c'est un peu limite, quoi. Parce que le pissenlit, ça pousse comme
un
ça.
Un peu partout,
on ne va pas se révolter pour des pissenlits. Non,
l'orge, c'est la bière aussi, sans doute.
Ah, la bière.
Et le deuxième, c'est...
L'orge ou les émeutes de l'orge, les émeutes du fromage.
Non, parce que le fromage, il faut le fabriquer, de toute façon. Non, c'est plutôt de l'orge, je dirais.
Moi, j'aurais dit fromage.
Vous avez...
Elle aurait dit fromage, au mépris de toute logique, et pourtant oui, c'était les émeutes du fromage, et plus précisément les émeutes des meules de fromage. Il y a eu une grosse période de pénurie alimentaire, vous l'aviez deviné, de hausse des prix, des magasins furent pillés, des entrepôts attaqués. La légende dit que le maire de Nottingham s'est interposé, mais il est tombé à cause d'une meule qui roulait et qui l'a emporté. L'armée a été appelée à la rescousse, ils ont ouvert le feu, et il n'y a eu qu'un mort à déplorer pendant les émeutes du fromage. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Je ne sais pas si vous avez une passion secrète pour les blocos, mais il en a été construit un étonnant entre Calais et Gravelines en 1942. Sa particularité, il était vertical. Vrai ou faux?
Il y a, près de Boulogne-sur-Mer, un énorme bunker qui est... Qu'entendez-vous par vertical? Il y a la partie qui émerge de terre.
Par un blocos horizontal.
Écoutez, je vois un énorme bunker aux environs de Boulogne-sur-Mer qui est... J'ai visité un bunker avant-hier d'ailleurs.
Je visite
beaucoup de bunkers à Berlin. Donc je dis il existe un bunker vertical, c'est ça?
Oui. Vertical.
Vous avez gagné.
Oh oui, il a été construit par des prisonniers russes, il permettait d'observer les navires de passage, il a été camouflé en église avec de faux vitraux peints et une croix sur son dessus, c'est pas celui que vous avez visité,
sinon vous vous en souviendriez.
En septembre 44, juste avant la libération de la ville par les troupes canadiennes, les occupants allemands tentent de le faire sauter, mais la charge explosive n'est pas assez forte, la tour s'incline et elle existe toujours. Vous pouvez l'admirer. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. On peut raisonnablement dire que Alexeï Leonov n'a pas vraiment marqué les esprits. Et pourtant, Alexeï Leonov est un cosmonaute russe et c'est le premier homme de l'histoire de l'humanité à être sorti dans l'espace. Sorti extra-véhiculaire, comme on dit chez Thomas Pesquet. Il en a profité pour faire une photo de la Terre. C'est donc aussi le premier photographe de l'espace. Vrai ou faux?
Est-ce que Gagarine n'aurait
pas fait photo?
Gagarine et Valentina Tereshkova, qui a tourné 48 fois autour de la Terre, elle n'a pas pu prendre une photo?
C'est la question que je vous pose. Est-ce que c'est le premier photographe de l'espace ou pas?
Peut-être.
Si ça se trouve, ce type, il était carrément autre chose.
Non, il est. Je,
non,
je
mais il est sorti. Il lui est sorti après, alors que les autres. Le premier... La première photo est extra-véhiculaire. Okay, oui, c'est ouais. peut-être lui.
Ou pas. Je ne sais pas, Stéphane. D'après vous.
Oui, d'après moi. Gros, vu que je sache.
Faites appel à vos souvenirs.
Mais j'étais pas né, vous voyez. C'est... Si,
ah, si, 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 si.
Je le crains. Pas d'indice. Alors, il a fait des photos dans l'espace.
Écoutez,
ou pas
je crois que c'était lui, oui.
Réfléchissez mieux, Stéphane.
Non,
c'est
pas lui.
Vous avez.
Ah, oui, il a gagné. La conquête spatiale, ça le passionne. Il est le premier homme à avoir fait ce qui sert à rien du tout. Il avait le premier dessin dans l'espace. Il est sorti avec des petits crayons de couleur et il a fait le lever du soleil sur une portion de la Terre. Il a aussi fait des petits croquis quand il était dans la navette qui ont été rendus publics à sa mort en 2019. Et faire des dessins, ça rapporte moins que prendre des photos.
Voyez,
Thomas Pesquet l'a bien compris.
C'est là où on voit la perversité de votre quiz.
Oui.
Parce que entre faire une photo et faire un dessin, oui, c'était nu quand même. Oui.
Mais c'est pas quand même le même procédé.
C'est beau faire un dessin. S'imaginer que ces crayons pouvaient partir en apesanteur et il y avait quelque chose de poétique et désintéressé.
Oui. C'est magnifique. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Très belle réponse en tout cas.
Merci.
Clémentine, on peut raisonnablement dire que Louis Coulon n'a pas vraiment marqué les esprits non plus. Et pourtant, cet ouvrier originaire de Montluçon fut une figure importante du syndicalisme français. Petite particularité, il était également chanteur d'opéra. Vrai ou faux ? J'ai jamais entendu parler de Louis Coulon.
Si, ce nom me dit quelque chose, mais peut-être parce qu'il est très passe-partout. Louis Coulon était-il syndicaliste et chanteur d'opéra ? Mais de toute façon, il a pu être syndicaliste avant d'être chanteur d'opéra. C'est peut-être en exerçant sa voix dans les meetings qu'il s'est rendu compte qu'il avait une très belle voix.
Parmi les chanteurs d'opéra, il y a aussi des syndicalistes pour revendiquer à l'opéra.
Mais vous avez raison, sauf que je pense à l'époque, à une époque à laquelle c'était quelque chose de rare. Et y avait-il déjà des syndicalistes à l'opéra ? Alors nous allons dire que oui, Louis Coulon.
Il est un syndicaliste.
Vous avez perdu.
Pas du tout. Il chantait très mal. En revanche, il avait une petite particularité, plutôt une longue particularité. Il a longtemps été, Louis Coulon, l'homme ayant la plus longue barbe du monde. 3,35 m. Plus que moi. Le record a été battu depuis. Il fut aussi le doyen des métallurgistes français. Il a été fondeur pendant 67 ans. C'est dommage. Vous auriez pu l'emporter, mais non.
Il n'était ni syndicaliste, ni chanteur d'opéra, donc.
Mais si, il était
syndicaliste,
il était syndicaliste barbu.
Barbu.
Extrêmement barbu.
J'ai dû voir passer ça quelque part, parce que Louis Coulon.
Vous avez dû voir des photos.
Quelque chose.
Question numéro 5. Attention, c'est la question finale qui va vous départager. On appelait Nouvelle-France de 1534 à 1763 l'Acadie, le Canada et la Louisiane. Au XVIIe siècle, les différents conflits armés ont réduit le commerce qui empêchait de battre monnaie. L'intendant Jacques de Meule, rien à voir avec Nottingham, a une idée étonnante pour pallier au problème. Qu'est-ce qu'il va utiliser ? Plus possible de faire de monnaie, il va utiliser quoi ? Des pots de phoque ? Des pièces de monnaie en bois de mélèze ? Ou des cartes à jouer ?
Deux.
Des cartes.
Trois.
Des cartes à jouer, oui ! Oui, Stéphane, mais vous le saviez, vous avez...
Oui, je le savais.
Incroyable. Des cartes à jouer avec dessus le sceau de l'intendant. C'est du coup la première monnaie papier en Amérique du Nord, bien avant le dollar. Ça va sauver les finances de la colonie et ça va éviter le défaut de paiement.
Dis donc, il en fallait un stock de cartes à jouer.
Vous avez joué tout le temps, là. C'était la grande activité à l'époque. Magnifique, Stéphane.
Ah, en plus, oui,
c'est
très belle réponse. Oui.
Que c'était pas au pif pour une fois. Vous saviez.
Pour une fois que je sais quelque chose.
Mais c'est important de souligner. C'est une sublime victoire de Stéphane Bern.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre et plus spécifiquement cet après-midi au cœur de la jungle de Bornéo. Une jungle qui retentit des échos terrifiants d'une faune mystérieuse.
Kikeriki, kikeriki.
Heureusement, Stéphane Bern est à mes côtés.
Et nous continuons d'avancer dans cette jungle tant qu'elle existe, Mathieu.
Oui,
puisque, si vous l'ignorez peut-être, Mathieu, Bornéo a été choisi pour abriter d'ici 2045 la nouvelle capitale de l'Indonésie, alors que l'actuelle Jakarta subit une pollution et des inondations sans précédent. Il faudrait quand même préserver l'une des plus grandes forêts tropicales, on appelle les forêts humides au monde. Bref, revenons à nos personnages du jour qui ont vécu à Bornéo, raison pour laquelle ils sont born and oh to be alive.
Je m'en lasse pas.
Après Margaret Brooke qui est devenue reine de Bornéo,
Je vous raconte Joseph Conrad, l'écrivain de la mer qu'il a prise, la mer, pour s'y rendre, et a mis Bornéo à l'honneur dans ses écrits. Et quant à vous, vous nous parlerez d'une star plus proche de nous et qui, elle, est carrément née à Bornéo, même si maintenant, elle a des papiers pour vivre en France.
Là, ces papiers, oui. Stéphane, jadis, quand c'était encore autorisé, les gens lui lançaient des bananes. Plusieurs générations d'enfants ont adoré contempler ses longs poils soyeux.
Des Miss Roussos.
Et non, Nénette, Stéphane. Laurent Houtan, la plus célèbre de France, qui est toujours à 53 ans, la star de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris.
Oui. Sans oublier nos chroniqueurs, à qui on ne jette ni bananes ni fleurs, d'ailleurs.
Non, parfois du moka avec Olivier.
Mmh. Ah oui, on va parler de moka.
Oui, on va aussi parler de forêt, puisqu'on va se promener en Éthiopie, dans ce qui est le berceau d'origine du café, où est né le moka. Et puis, je vous parlerai aussi de ce gâteau, qui porte le moka. Je vous donnerai une recette de crème facile au moka que vous pouvez faire chez vous.
Très bien. Mais vous n'aimez pas le sucré, en plus.
Je m'en passe plus facilement que du reste, pour être honnête.
Et vous le proposez aux auditeurs.
Et je vous le proposerai à vous, mon cher Stéphane, quand vous viendrez manger, car je sais que vous aimez les desserts.
Oui, hélas.
On sait recevoir à la maison.
David Castel-Lopez qui nous raconte les origines de ce qui fait peur à Mathieu Noël, train fantôme.
Ah, non, c'est très effrayant. Ça me fait peur à moi aussi, mais ça va toujours exister. Voilà, je veux dire,
mais heureusement.
Oui. Il n'y a pas de train fantôme.
Disons qu'avant le train, il n'y a pas de train fantôme.
Pas de train fantôme. Vous avez vraiment des réflexions frappées au coin du bon sens. À mon avis, vous êtes bien parti pour remporter la lutte finale. Notre quiz final. Je crois qu'on est à égalité, Olivier.
Il se dit ça, oui. Qu'aujourd'hui, c'est un moment
important. Il ne faudra pas manquer la fin de l'émission.
Sauf si David gagne.
Sauf si David gagne, auquel cas, la compétition sera relancée.
Je crois que ça n'arrive plus.
Ça arrive rarement maintenant. Mais pour l'heure, découvrons notre deuxième personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Son bateau l'a conduit sur les mers, à la rencontre d'un monde nouveau.
Avec mon ami Nikos Aliagas, on fait ça tout le temps.
Oui, mais lui, il a fait au-delà de Paros, Stéphane. Il a fait escale à Bornéo, une île qu'il a mise dans ses livres. Stéphane Bern nous raconte le marin devenu écrivain Joseph Conrad.
Nous sommes en 1886. Théodore Joseph Conrad Korzyniowski remonte le Béro depuis le détroit de Makassar en Indonésie. Le capitaine du Clipper, casquette vissée sur la tête, débarque dans un kampung. Une petite ville nommée Béro, comme le fleuve. Là, parmi les quelques maisons sur la rive, il fait la connaissance du seul Européen que comptent les habitants, un certain William Holmeyer. Il ne sait pas encore qu'il inspirera bientôt l'un des personnages les plus célèbres de l'œuvre littéraire de celui qu'on connaît sous son nom de plume, Joseph Conrad. Le pseudonyme formé de ses deuxième et troisième prénoms à consonance anglaise, sa langue d'adoption. L'écrivain est né en 1857 à Berdichev, petite ville du centre de l'Ukraine, baignée seulement par les champs de blé. Les Korzyniowski appartiennent à l'aristocratie polonaise, mais la Pologne d'alors n'existe plus, partagée entre les appétits russes, prussiens et autrichiens. Les terres familiales ont été confisquées par le tsar. Militant nationaliste, le père Apollo est emprisonné en la citadelle de Varsovie, puis condamné à l'exil en Russie, à plus de 1600 km de chez lui avec toute sa famille. À 11 ans, Théodore Joseph est orphelin, ses deux parents ayant succombé à la tuberculose. Il est recueilli par un oncle qui se charge de son éducation. Pour échapper au service militaire russe, l'adolescent part à 17 ans en direction de la France. Il trouve sur le port de Marseille un emploi de mousse sur un voilier. Il passe en France quelques années d'apprentissage avant de découvrir les mers des Antilles, le Venezuela, Haïti. Le jeune Polonais parle parfaitement le français. Petit, il a vu son père traduire les vers de Victor Hugo et d'Alfred de Vigny. Des textes romantiques qui semblent faire écho à son âme marquée par les souffrances de l'enfance et la mélancolie. En février 1878, à 20 ans, Joseph se tire une balle dans la poitrine. Il est blessé mais vivant. S'agit-il d'une tentative de suicide ou bien d'un duel provoqué? L'une comme l'autre s'inscrivent parfaitement dans le mouvement romantique. Peu de temps après, il intègre la marine britannique la plus puissante et prestigieuse de l'époque. Il ne connaît pas la langue anglaise et l'apprend au contact des marins. Quelques années après, il obtient son brevet de capitaine au long cours. Conrad peut alors partir pour les mers lointaines, celles qui bordent la Malaisie, l'Indonésie et l'Australie. Le capitaine fait plusieurs voyages à Bornéo et à Béro, dans la partie indonésienne de l'île. En juin 1890, on le retrouve en Afrique noire, remontant le grand fleuve pour débarquer à Matadi dans l'état indépendant du Congo, qui n'a d'indépendant que le nom, puisque c'est en réalité la colonie belge du roi Léopold II. Joseph Conrad a 32 ans. Son vapeur à aube de 15 tonnes doit parcourir 1700 km pour charger de l'ivoire et du caoutchouc. Un travail lent et dangereux. Un tiers des Européens ne survit pas plus de 2 ans à ce climat et succombe aux fièvres tropicales. Joseph lui-même tombe malade. Le paludisme et la dysenterie. L'expérience tourne court. Moins de 6 mois après son arrivée, le capitaine regagne les berges plus sûres de la Tamise. En 1894, après une dernière mission en Australie, il met fin à sa carrière de marin et entame sa carrière d'écrivain. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa nouvelle famille, puisqu'il est désormais marié et bientôt père de 2 garçons, Joseph Conrad pense à publier une histoire commencée quelques années plus tôt, entre 2 voyages. Il a choisi d'écrire en anglais, une langue qu'il ne connaît que depuis quelques années et qu'il ne maîtrise même pas parfaitement à l'oral. Son premier roman, La folie Almayer, paraît en 1895, un an après sa retraite des mers. Il raconte la déchéance d'un commerçant hollandais, le fameux Olmeijer, que Conrad a rencontré 10 ans plus tôt à Béraud. Un marchand perdu dans son rêve de puissance et de fortune, qui devient fou en tentant de retrouver le trésor autrefois caché par son beau-père, alors pirate, dans un repère de Bornéo. C'est un formidable roman d'aventure où se battent à coups de mousquets des sultans, des négociants arabes et des trafiquants malais, sur fond d'histoire d'amour entre la très belle fille du héros, Nina, et le fils du Raja de Bali. 2 autres romans, Un paria des îles et La rescousse, complètent cette trilogie malaise de Conrad. Lord Jim et Histoires inquiètes ont aussi pour toile de fond les bambouserets et les bananiers de Bornéo et des îles indonésiennes. Le marin ne voyage plus, mais il puise dans ses souvenirs ses histoires de navires et de terres lointaines. Et en à peine 3 mois, entre décembre 1898 et février 1899, le romancier rédige à la main l'un des textes les plus terribles et les plus importants sur le colonialisme en Afrique. Au cœur des ténèbres, publié en feuilleton dans une revue britannique, dénonce les exactions des officiers de la force publique au Congo, les massacres, l'esclavage, la traite, les abus sexuels qui feront 10 millions de victimes entre quelques décennies. Un roman qui inspirera aussi Francis Ford Coppola pour le scénario d'Apocalypse Now, transposé dans le Vietnam en guerre. Les textes de Conrad cherchent à imprimer une sensation, une impression sur le lecteur. La tâche que je m'efforce d'accomplir est, par le pouvoir du mot écrit, de vous faire entendre, de vous faire sentir, avant tout de vous faire voir, explique-t-il. Un halo de mystère, une ambiance ténébreuse entoure ces personnages, des anti-héros tourmentés qui connaissent presque tous une fin triste et violente. Joseph Conrad se passionne pour leur psychologie, leurs vices, les aspects les plus sombres de l'âme humaine qui sommeille en chacun de nous et que la navigation sur des mers lointaines peut révéler. Joseph Conrad, c'est en août 1924. Son œuvre, celle d'un capitaine polonais qui ne parlait pas anglais, est l'une des plus importantes en langue anglaise de tout le XXe siècle. Comme leur auteur, les textes de Conrad ont voyagé dans le monde entier, séduit et inspiré des écrivains aussi talentueux que Jack London, André Gide, son premier traducteur en français, ou Rorke, Louis Borges, qui disait simplement « Conrad, pour moi, c'est LE romancier ».
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Joseph Conrad, nous sommes avec quelqu'un qui lui aussi a sillonné la planète. Bonjour Olivier Weber.
Bonjour.
Bonjour Olivier Weber, vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur Joseph Conrad, Conrad le voyageur de l'inquiétude, qui est paru aux éditions Artaud. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de qualifier Conrad de cette façon ?
Alors l'inquiétude parce que chez Conrad, il y a une grande mélancolie, il y a une sorte de, non pas de nostalgie, mais de tristesse, de l'exilé. Vous rappeliez tout à l'heure que son père avait été donc poète, propriétaire terrien, mais surtout, pardon, opposant au tsar, et qui a vécu en exil, et toute sa vie, le jeune orphelin, parce qu'il était orphelin à 11-12 ans, Conrad, donc le futur écrivain, a porté cette marque de l'exil. Et pour moi, Conrad pourrait être défini comme étant le voyageur mélancolique dont parlait Borges, mais aussi quelque part comme un exilé, embarqué soit dans un train, soit sur un bateau, qui est le bateau de l'aventure, mais l'aventure humaine. Et donc l'inquiétude pour lui, c'est pas une fin en soi, c'est plutôt un moyen d'explorer le monde, un moyen d'explorer l'âme humaine. Et c'est ça, toute l'œuvre de Conrad, le mélancolique, c'est son œuvre, c'est aussi ces drames humains qu'il a vécu en tant que capitaine sur les bateaux.
Vous le décrivez comme un personnage qui a des sentiments mêlés, qui est à la fois un homme plein d'espoir et en proie aussi souvent à l'abattement. qu'est-ce qu'il va chercher dans l'exploration des mers et des contrées exotiques ?
L'aventure, puisqu'il était sur le port de Marseille à 17 ans, où il est devenu mousse, il aurait pu d'ailleurs croiser Rimbaud, qui avait à peu près le même âge que lui, et qui était à Marseille à ce moment-là. Et donc, tout d'un coup, il entend parler anglais, il dit, ça sera ma langue, je vais parler anglais, même s'il le parlait mal, effectivement, je vais écrire en anglais. Mais il a surtout parlé français avec l'accent de Marseille jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, c'était l'aventure, parce qu'il fallait pour lui trouver un moyen de vivre. Et l'écriture est venue après. Mais tout ce qu'il a vécu à bord des bateaux, alors que ses marins souvent allaient à l'escale à Bornéo ou en Afrique, dans les bordels ou écluser leur solde au fin fond des bars louches et des tripots, bien lui, Conrad écrivait. Il avait besoin de se livrer, il avait besoin de raconter d'une manière peut-être moins autobiographique que altruiste, en fait, pour comprendre ce qu'est le monde, ce qu'est finalement cette vie à bord d'un bateau. Et toute cette vie, donc, Conrad va affronter des tempêtes, des typhons, mais ce sont aussi d'abord des tempêtes humaines. Et finalement, l'œuvre de Conrad, c'est cela. C'est au-delà de la mélancolie dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi l'émotion, les sensations, l'héroïsme et quelquefois la lâcheté. Il y a tout dans Conrad, c'est pour ça qu'il nous parle, c'est pour ça qu'il est universel.
Vous racontez que vous avez écrit ce livre pour régler votre dette envers Joseph Conrad. Vous lui devez tant que ça, c'est une figure tutélaire pour vous ?
Oui, parce que j'ai lu Conrad très jeune, comme d'autres les écrivains que j'ai lus enfant. J'ai eu comme lui un peu une enfance chaotique, on va dire. Et j'ai voyagé très jeune et ça, il m'a pris par la main quelque part. Et je pense qu'il est encore entre guillemets d'actualité, c'est-à-dire que pour nos auditeurs jeunes et moins jeunes, lire Conrad, c'est aussi embarquer avec lui sur des rivages universels. Parce que d'abord, quand il décrit, quand il ouvre un livre, quand il commence un livre, pardon, Conrad écrit comme avec une caméra. C'est presque un cinéaste. On parlait de Coppola tout à l'heure, mais on a l'impression d'avoir une caméra d'un grand metteur en scène hollywoodien ou britannique ou français. Il nous décrit tout d'un coup ce qui se passe au fin fond des tropiques. Mais il y a une ambiance surtout, au-delà du paysage physique, géographique, il y a un mystère, il y a une énigme. Et je trouve que cette distance qu'il met, lui, Conrad, qui a connu moult aventures de par le monde, entre ce paysage et finalement ce qu'il veut dire des personnages à l'intérieur, c'est magique. Et c'est ça, l'alchimie de la littérature, parce que, voilà, on est entre la mise en scène et en même temps entre le fait qu'il vous prenne par la main et qu'il vous emmène dans les abysses de la mer, de cette mer intérieure qui est notre âme, qui est notre esprit.
On distingue cependant deux grandes périodes dans la vie de Joseph Conrad. Sa vie de marin, puis sa vie d'écrivain. Comment se fait le basculement? Et dans quel contexte il écrit les premières pages de La Folie Elmayer?
D'abord, Conrad écrivait beaucoup à bord, alors c'est pas évident, hein, c'était des steamers, ça bouge beaucoup, les bateaux à vapeur.
Plus que dans le Ponant, en tout cas, Stéphane.
Absolument. Et je crois que c'est une certitude, l'écriture l'a porté, l'écriture l'a construit. Son vrai père, lui qui était donc orphelin de mère à 6 ans et orphelin de père à 11, 12 ans, eh bien, son vrai père, c'est la littérature. Et donc, il a fait 20 ans de marine marchande, donc j'ai à peu près jusqu'à 40 ans, et là, tout d'un coup, il s'est mis à publier. Mais auparavant, premier roman. La Folie Elmayer, c'est 5 ans d'écriture. Et d'ailleurs, il a perdu ce manuscrit. Il retourne en Ukraine, l'Ukraine d'aujourd'hui, où il est né, donc en la Galicie de l'époque. Et il s'est rappelé qu'il avait oublié à Berlin son manuscrit. On le lui a retrouvé. Et c'est très étrange comme ça sonne un petit peu avec l'histoire de son père. Parce que son père, 15 jours avant sa mort, alors donc le jeune Joseph Conrad avait 11-12 ans, son père a brûlé ses écrits. Et ça l'a marqué, cette résonance entre la perte du manuscrit de La Folie Elmayer et puis bien sûr ce souvenir de l'autodafé, on va dire, des œuvres de son père, poète polonais, né en Galicie. Et bien voilà, donc La Folie Elmayer, c'était une œuvre qu'il a écrite en 5 ans, mais c'était douloureux, et heureusement qu'il n'a pas perdu pour nous tous ce manuscrit.
Heureusement. Le théâtre de ses aventures, c'est des lieux qu'il a vraiment arpentés, qu'il a connus. Il y a combien de Joseph Conrad dans ses personnages? Quelle est la part de... Est-ce qu'il y a des choses qu'il a vraiment vécues, peut-être, juste un peu romancées ou...
Oui, alors c'est une très bonne question, parce qu'en fait, il y a Conrad partout et nulle part, parce qu'il met une distance avec ses personnages, et en même temps, bien sûr, quand il décrit, par exemple, Lord Jim, moi je recommande vraiment aux éditeurs de lire Lord Jim, qui est ce jeune, pour faire très vite, capitaine de marine marchande, qui abandonne en mer Rouge les passagers de son bateau, cargo, paquebot qui s'appelle le Patna, parce qu'il croit qu'il y a le feu à bord, il n'y a pas le feu. Et Lord Jim, toute sa vie, va porter le fardeau de cette culpabilité, de la faute, alors que lui voulait être un héros. Et Conrad, c'est ça. On est tous des héros, et quelque part aussi des anti-héros. C'est la part maudite dont parlait Georges Bataille, et donc c'est ambivalent. Et bien sûr qu'il se sert dans ses livres, dans ses romans, des personnages qu'il a rencontrés, de ce qu'il est, des paysages qu'il a vus, mais il mélange le tout et il sème le trouble. Encore une fois, l'énigme, le mystère, parce qu'il met une distance. Et c'est ça qui est fort, parce que cette distance, ce mystère, cette énigme nous transporte et ça crée aussi une sorte de symbiose un peu alchimique et mystérieuse qu'on retrouve dans les grands chefs-d'œuvre.
Justement, vous parliez de Lord Jim. Quel roman de Conrad vous nous recommandez ou vous recommanderiez à nos auditeurs qui ne le connaissent pas?
Alors, je mettrais d'abord Lord Jim, effectivement, parce que c'est universel, cette bataille... on va dire à peu près pour faire vite entre le bien et le mal, entre l'héroïsme et la couardise ou la lâcheté. On a tous fait des fautes dans notre vie, on a tous regretté, porté la croix, la culpabilité, etc. Et puis deuxièmement, un grand roman qui dénonce le colonialisme à l'époque en Afrique, mais il l'a aussi dénoncé pour le colonialisme néerlandais à Java et ou à Bornéo, c'est Au cœur des ténèbres, qui est inspiré, donc comme vous le disiez, Coppola. Sauf que Coppola déroule son film, tourne son film au Vietnam avec Marlon Brando dans le rôle de Kurtz, et le Kurtz de Cœur des ténèbres, c'est au fin fond d'un fleuve secret, bon, on pense bien sûr que c'est le Congo, dans l'état indépendant du Congo, et Kurtz qui est un collecteur d'ivoire, donc il est là pour collectionner, pour récolter l'ivoire pour une compagnie, devient totalement fou, c'est un tyran, c'est un salopard, etc., c'est un buveur d'alcool, et notre ami Marlowe, qui est le narrateur, qui est en fait Conrad, nous décrit tous les tréfonds de l'âme humaine, mais aussi, pareil, la tyrannie, et puis aussi les bassesses de l'humanité, et surtout dénonce le colonialisme. Donc deux romans, Lord Jim et Au cœur des ténèbres.
Mais merci beaucoup Olivier Weber de nous avoir fait voyager aux côtés de Joseph Conrad. Je rappelle que votre livre Conrad, le voyageur de l'inquiétude, est disponible aux éditions Artaud. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages qui ont vécu à Bornéo. Après Margaret Brooke et Joseph Conrad, vous nous brossez, Mathieu, le portrait d'une célébrité qui, elle, est née à Bornéo.
Alors, c'est rare que je sois amené à brosser ici le portrait de quelqu'un que je connais. Or, c'est le cas de mon personnage du jour, Nénette, Laurent Houtan, star de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Je sais, Stéphane, que dans le temps, vous avez connu, vous aussi, une autre Nénette.
Reine du stupre au Bois de Boulogne ou dans les licencieuses soirées de Montmartre.
L'ayant moins connu que vous, je préfère donc me concentrer sur Nénette, Laurent Houtan, sympa, du Jardin des Plantes. Nénette, Stéphane Bern. Deux destins qui n'ont qu'un seul point commun. La célébrité. Une célébrité étouffante parfois, mais plus pour l'une que pour l'autre, car la grosse différence reste la privation de liberté. Si Stéphane pourra choisir l'épitaphe suivante...
J'ai vécu comme j'ai voulu, j'ai gagné beaucoup d'argent et je disais merde à tout le monde.
Nénette, elle... Oui, c'est votre épitaphe, vous m'avez confié l'autre jour. Bien, moi je trouve c'est bien.
C'était dans un des récits, évidemment.
Nénette, elle devra plutôt dire « J'ai vécu pas comme j'ai voulu, j'ai pas gagné une thune et en plus j'ai dit bonjour à tout le monde ». Tout commence donc à Bornéo en 1969. Dans une jungle inviolée où résonnent les cris d'animaux endémiques et mystérieux comme le bono bern, un singe qui passe ses journées à copuler en faisant
bé, bé.
Cette jungle étonnante est le berceau de Nénette, orang-outan appartenant à la sous-espèce Pongo pygmaus pygmaus. Sad fact, son espèce est en danger d'extinction en cause de trois broutilles comme la déforestation dont vous parliez tout à l'heure Stéphane, les incendies, le réchauffement climatique, la chasse illégale et les épidémies. C'est dommage, les orang-outans sont des animaux fascinants. On estime qu'ils ont 5 à 7 fois la force d'un humain et l'âge mental d'un enfant de 5 ans. Ce sont donc en quelque sorte des culturistes poilus. Nénette, elle, comme son nom l'indique, est une culturiste poilue. Victime de braconnage, alors qu'elle est encore bébé, elle ne connaîtra finalement que la vie en captivité. Très vite, elle est envoyée en France, au Jardin des Plantes, donc, où elle est logée à côté de l'enclos des ânes. Qui l'accueille avec enthousiasme. Petit point pour nos amis auditeurs en région, la ménagerie du Jardin des Plantes, c'est le lieu où chaque dimanche, les parents parisiens affluent en masse pour occuper leurs mioches qui tournent en rond dans leurs apparts minuscules qu'ils louent 2300 balles par mois hors charge. C'est un zoo, mais aussi donc un échappatoire qui permet aux parents de souffler et de repousser la décision de se suicider en se plongeant la tête dans le sanibroyeur. Et le point d'orgue d'une visite à la ménagerie du Jardin des Plantes, c'est bien sûr la visite à Nénette. Nénette, il lui en faut peu pour être heureux. En tout cas, c'est ce qu'on imagine quand on la voit. Elle passe la journée à faire des bruits bizarres, un peu comme David quand il essaye d'imiter Prince. Oui, c'est très bien. Au début, à son arrivée, il paraît qu'elle était plutôt indépendante et même pas sympa avec les femmes, raconte Christelle, soigneuse au Jardin des Plantes. Avec le temps, elle s'est détendue. Faut dire aussi que ses conditions de vie se sont nettement améliorées. Dans les années 70, on se contentait de respecter trois règles. Une cage propre, un animal nourri et présentable pour le public. Puis, la question du bien-être animal s'est invitée dans le débat public et révolution pour les animaux dans les zoos, décision a été prise de leur laisser le choix de se montrer ou non au public, de choisir telle ou telle activité. Fini le fusil hypodermique utilisé par les vétérinaires pour les anesthésier. On peut à présent faire des injections aux orang-outans qui ont appris à tendre le bras. Nénette est une matriarche, mais elle arrive à Paris avec son mec, un mâle qui répond au nom de Toto. Avec lui, elle ne chôme pas, elle a deux fils, Doudou et Mawa. Après la mort de Toto, Nénette est veuve, mais elle se refait la cerise assez rapidement avec un certain Solok, un mâle arrivé en 87 du zoo de Leipzig, un orang-outan chleu. Avec lui, elle aura finalement deux autres mâles, Tubo et Dayu. La famille sera finalement dispersée dans divers zoos d'Europe, puis très vite, Nénette devient mamie, puis même arrière-grand-mère. Elle est décrite par ses soigneurs comme, je cite, « une grand-mère toujours alerte, qui boit du thé dilué, mange des légumes et des fruits frais 5 fois par jour, feuillette des magazines et nettoie les vitres avec une frénésie joueuse. » Soit peu ou prou, le portrait de ma grand-mère. Nénette est d'ailleurs aussi bien suivie médicalement que ma grand-mère, suivie cardiaque notamment et osseux, puisque je suis au regret de vous annoncer que Nénette fait un peu d'arthrose au niveau des épaules et des pattes. À quoi ressemble sa journée? Eh bien, elle n'est finalement pas si différente de celle d'un humain, en tout cas d'un humain qui serait prof de yoga vegan allergique au lactose. 5 petits repas quotidiens alternant 3 types de légumes et de fruits, pommes, poires, bananes, poivrons, brocolis et poireaux, le tout agrémenté de feuillage. Nénette est pourtant très bec sucré, nous révèle Mutine, sa vétérinaire, sans qu'on comprenne vraiment comment elle peut le savoir, vu qu'elle doit rarement lui balancer des Paris-Brest. Au programme également plusieurs siestes par jour et des activités d'enrichissement destinées à stimuler psychiquement et physiquement notre orang-outan. C'est un peu Interville, mais avec le budget de la ville de Paris. Nénette doit chercher des croquettes cachées dans des bidons ou récupérer des morceaux de pommes enfouis dans des gros blocs de glace. Avec le temps, Nénette est donc devenue, vous l'avez compris, une attraction, une véritable star. Certains habitués viennent la voir régulièrement, certains lui font même des confidences intimes concernant leur partenaire d'un soir.
Il y avait des longs poils, le mastodonte.
Une popularité qui doit beaucoup au fait qu'elle fasse partie des 15 plus vieux orang-outans en captivité au monde, et aussi un film que lui a consacré Nicolas Philibert en 2010 et qui a permis au journal Le Parisien de parler de Nénette un peu comme si c'était Monica Bellucci à Cannes. Ses yeux noirs en boutons de culotte, bien enfoncés sous la frange rousse, vous regardent avec une acuité d'une jeune fille perçant sous son flegme apparent. Les mecs se sont fait plaisir, quoi. Entre deux siestes et deux fournées de brocolis, Nénette a des hobbies. Figurez-vous qu'elle peint, Stéphane.
Ah non.
Oui, bon alors au début, elle se contentait essentiellement de bouffer la peinture. Ses soigneurs ont dû lui fournir de la peinture pour enfants, non toxique. Mais avec le temps, paraît-il qu'elle serait devenue une artiste à part entière, étalant gaiement avec ses doigts et sa bouche la peinture sur les vitres de son habitacle. Mais je rassure les machistes qui nous écoutent, son activité préférée reste le ménage. Un soigneur explique, les orang-outans adorent qu'on leur donne du linge de maison, des draps, des tissus, ils jouent avec et s'en font des tapis. Est-ce qu'en visite à la ménagerie du Jardin des Plantes, vous vous êtes déjà senti jugé à travers la vitre? Eh bien, c'est normal, Nénette comprend tout. Quand les visiteurs se moquent d'elle, elle tourne le dos. Dotée d'un très fort instinct maternel, quand les enfants se rapprochent des vitres, elle les observe de plus près. Et surtout, elle regarde comment leur mère s'en occupe. Ouais, Nénette, c'est un peu la dasse. En juin 2019, elle a fêté ses 50 ans. Une fête invraisemblable a été donnée en son honneur puisqu'elle a eu droit à un pot de peinture et un gâteau aux fruits. L'espérance de vie maximum d'un orang-outan en captivité, c'est de 60 ans. Nénette va sur ses 53. On est confiant, comme me le disait Stéphane hors antenne.
La rouquine n'a pas dit son dernier mot.
C'est sûr. Allez Stéphane, un petit message peut-être pour Nénette.
Oh,
ça va lui rappeler Bornéo.
Merci beaucoup.
Vous l'avez déjà vu, Nénette?
Je crois pas être allé. Non.
Vous êtes jamais à la ménagerie du
Jardin? Non, mais parce que quand j'étais petit, j'étais à Nancy, au parc de la Pépinière, et j'allais voir Jojo, qui était notre orang-outan.
À vous?
Qui est mort depuis, mais. Enfin, je les soupçonne de nous avoir remplacés régulièrement.
sans le dire. Ça se trouve, ils ont fait pareil avec Nénette. Oh, non.
Vous vous rendez compte qu'il y a 150 ans, on l'aurait mangé, Nénette?
Mais ne dites pas n'importe quoi, vous êtes horrible.
Oh non.
Mais si, c'est ce qu'avait fait pendant la commune de Paris.
C'est ce qui s'était passé,
oui. On avait mangé les animaux des zoos. Oui. Merci beaucoup, Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure, Mathieu, de dire au revoir à Bornéo.
Au revoir, Bornéo. J'espère qu'on se reverra. Et on accueille nos deux experts des voyages temporels. Ils remontent pour nous aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, chaque matin, beaucoup d'entre nous, c'est le café. Mais plus précisément, le mocha.
Oui, je vous emmène dans une autre forêt que celle de Bornéo, même si on produit du café à Bornéo. Mais moi, je vous emmène là où le café est né, là où tout a commencé.
Oui, sur les hauts plateaux
de la forêt d'Éthiopie.
Oh, ouais, magnifique. Mais tout de suite, David Castello-Lopez nous entraîne dans un lieu que j'affectionne beaucoup moins, personnellement. Le train fantôme. Qui a inventé ce truc-là?
Quand j'étais petit, à Lisbonne, il y avait une fête foraine l'été qui s'appelait la Feira Popular, la foire populaire. Mmh. Et dedans, il y avait une maison fantôme dans laquelle il y avait des endroits où on marchait, des endroits où on était installé dans un petit wagon classique de train fantôme. Mais c'était en 1985 et moi, j'étais trop petit, quoi. J'avais 3 ans et demi, donc j'avais pas le droit d'y aller, ce qui m'embêtait. Mais ma grande sœur, en revanche, qui a 10 ans de plus que moi, elle avait le droit, évidemment. Et cet été-là, elle y est rentrée avec une amie à elle. Et quand elles sont sorties du train fantôme, leur visage était mais décomposé. Et décomposé, pas pour rire, décomposé vraiment. Genre, ça pouvait pas être à cause de faux squelettes qui tombent du plafond ou le monsieur habillé en mort qui fait teinter les barres de fer de sa cellule. Non, il y avait un problème. Et ce problème, elles nous ont dit assez vite ce que c'était, c'est qu'il y avait des types qui s'étaient mis à l'intérieur du train fantôme et qui avaient profité de l'obscurité et du prétexte de faire peur pour tripoter ma sœur et sa copine dans le noir.
C'était Pulse, visiblement.
C'était Pulse.
Alors, non, mais c'était ce n'est pas drôle du tout.
Ça s'appelle des agressions sexuelles.
Ça s'appelle des agressions sexuelles.
Parce que j'ai deviné ce que vous alliez dire et je me suis dit que cette histoire...
Ça a dû être très
plein
courant.
Le train fantôme, c'est l'horreur, le train fantôme, je vous le disais. Oui, ça doit être interdit, tout simplement.
Alors, on ne sait pas qui était ces gars. Il s'appelait sans doute João, Francisco, Paul, Bruno. Mais depuis, les trains fantômes, c'est resté dans mon esprit un potentiel repère de pervers libidineux qui profite de l'ambiance. Je me fais peur pour rire, pour faire peur pour de vrai. Et je ne peux pas aujourd'hui entrer dans un train fantôme sans penser à ça. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir envie de savoir qui a inventé les trains fantômes.
Un pervers.
Peut-être, peut-être. C'est fort probablement un monsieur américain qui s'appelait Léon Cassidy. Léon, il était né en 1890, la même année que Charles de Gaulle, je crois. Et ça fait partie de ces gens qui avaient ce qu'on appellerait aujourd'hui, dans un article des pages roses du Figaro, la fièvre de l'entrepreneuriat. Vous voyez, à 20 ans, en 1910, il a acheté un cinéma. À 20 ans, voilà. Et puis, quelques années plus tard, il a voulu se diversifier. Alors, il a acheté avec un associé un vieux parc d'attractions à Bridgeton, dans le New Jersey. C'était tout poussiéreux. Alors, ils l'ont modernisé avec un manège, avec des toboggans, etc. Mais à l'époque, il y avait aussi une attraction qui commençait à être populaire aux États-Unis. Dans les parcs d'attractions, c'était ce qu'on appelait les vieux moulins. On était dans un petit bateau qui naviguait dans un espace sombre, un peu éclairé ici ou là, avec des scènes un petit peu mystérieuses. Léon, il se disait que c'était ça qu'il lui fallait, mais il n'avait pas le budget. Il n'avait pas le budget pour faire un vieux moulin, notamment à cause du prix que ça coûtait de faire creuser une fausse rivière. Alors, il a essayé de trouver une façon de faire ça au sec. Et il a réussi en utilisant une vieille auto-tamponneuse et en l'adaptant sur un monorail électrique. Il a rempli un bâtiment avec des choses qui faisaient peur, un peu des squelettes, des trucs comme ça. Et en 1928, ce qui est considéré comme le premier train fantôme du monde, a été ouvert dans le parc. Et il a rapidement pris le nom de Pretzel Ride.
Parce que le circuit,
ou le pretzel, parce que le circuit était plein de virages serrés, un peu comme un bretzel, et donc c'est devenu le pretzel ride. Ça a eu du succès, et ils se sont dit que le business, plutôt que de gérer des parcs d'attractions, c'était plutôt de construire des attractions, des pretzel rides, et de les vendre à des gens qui voulaient les exploiter. Et donc c'est devenu ça, Léon Cassidy et son associé, ils ont commencé à être des fabricants de trains fantômes, ils ont créé la Pretzel Ride Company. Rapidement, toutes les fêtes foraines ont voulu leur pretzel ride, et Léon et son associé, ils ont fait des fortunes. Alors bien sûr, le principe qu'ils avaient inventé, il a été copié un peu partout. And the rest, hein, comme on dit, is history. Quant à ma sœur, je l'ai appelée pour lui demander si elle se souvenait de l'affaire du train fantôme. Et oui, parfaitement, elle s'en souvient. Et elle m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié, peut-être parce que j'avais 3 ans et demi quand ça s'est passé.
Ça, oui.
C'est que quand elle a raconté l'histoire du tripotage en sortant du train fantôme, mon frère était là, il était encore plus âgé qu'elle, et mon frère, il est re-rentré dans le train fantôme pour retrouver les gars.
João et tout ça, là.
Alors, João, Bruno et machin, enfin, ça se trouve, c'est pas eux, mais j'aurais bien aimé qu'il l'aurait détruit le visage à lui tout seul, mais
non. Votre père, il aurait fait ça.
Mon père, je pense qu'il aurait complètement fait ça.
Ouais.
Il les a juste engueulés très très fort, mais quand même, il y a eu un petit début de justice, et ça fait quand même plaisir.
Voilà. Parce que les mecs, ils restaient toute la nuit dans le train fantôme.
Mais c'est vivement
mais
ça.
Ils devaient avoir des complicités chez les forains.
Mais
moi, c'est ça que j'ai dit.
Ouais.
Bon, bref. Faudrait mener une enquête, même s'il y a
des
prescriptions.
Pervers. Non, ce qui...
ouais. Lisbonne, ouais. 1985.
Ouais. Ouais. Enfin,
joli. Ouais. J'y étais, pourtant, c'était là.
Vous avez fait le train fantôme, heureusement.
Non,
heureusement,
non, j'ai peur. J'ai pas fait le train fantôme.
Vous auriez été traumatisé.
Mais j'étais, c'était là en vacances, en oui,
l'été
85. Oui.
Bon, vous n'aviez pas 3 ans et demi, vous.
Non, j'avais plus de.
Vous aviez l'âge de sortir en boîte de nuit.
Ans, oui. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre avec Olivier Pouls qui nous raconte aujourd'hui l'origine du mocha, le café des cafés.
Oui, c'est l'heure d'un petit café. Qu'est-ce que ça vous tient très bien. Alors, bon, il faut faire attention à la confusion parce que en France, on a tendance à désigner par mocha une famille de cafés et on ne sait pas exactement à quel café cela fait référence. Et pour cause, le nom mocha vient tout simplement du port yéménite Al-Mocha, qui est le port depuis lequel sont partis les premiers cafés. C'est un port qui ensuite est devenu un port important de l'exportation du café au travers le monde. Et donc on a désigné par Mocha, toute une série de cafés. Alors qu'à l'origine, le premier des cafés qui est parti de ce port, eh bien, c'est le café des cafés, le café endémique, le café éthiopien. Alors, pour le découvrir, ce café éthiopien, il faut évidemment partir sur les hauts plateaux de l'Éthiopie. C'est un café qui ne pousse que entre 1500 et 2200 mètres d'altitude, que les Éthiopiens connaissent depuis bien plus longtemps que nous, puisque nous, on l'aurait découvert autour du 15e, 16e siècle. Alors, il faut savoir que dans les cafés, il existe deux grandes familles de cafés, deux grandes sortes de cafés, qui sont les Arabica et les Robusta.
Ah oui, j'ai jamais compris, moi, la différence.
Eh ben, je vais vous expliquer. Alors, il faut savoir que l'Arabica, dans lequel il y a là aussi toute une série de cafés, de branches, l'Arabica, le Mocha, est un Arabica. Et c'est le premier des Arabica. Et c'est à partir du Mocha, et c'est à partir de cet Arabica Typica, c'est son nom exact, que on a par mutation créé toute une série d'autres cafés. Alors, quelle est la particularité de ce café ? C'est que ce sont des cafés plutôt légers, avec beaucoup de finesse, des notes de fleurs, des notes d'agrumes, mais ce sont surtout des cafés qui sont très compliqués à cultiver parce qu'ils sont très sensibles aux maladies et ils sont assez peu rentables du coup. L'autre grande famille, c'est le Robusta.
Il est robuste.
Et il est, comme son nom l'indique, il est robuste. Et c'est probablement celui que vous buvez en grande majorité. Mmh. Il est beaucoup plus cultivé dans le monde aujourd'hui. Lui, on l'a découvert très tardivement, au 19e siècle. Il est originaire du Congo. Lui aussi donne toute une série d'autres cafés. Et lui, bien voilà, c'est celui que vous trouvez par exemple dans les cafés solubles. C'est celui que vous trouvez en majorité sur l'île de Bornéo, par exemple. Il y a toute une production de Robusta. Alors, il faut savoir que le café, c'est un peu comme le vin, c'est-à-dire qu'il y a des cépages, donc il y a des variétés, mais après il y a des terroirs. Et la notion de terroir sur le café est incroyablement importante. Alors par terroir, qu'est-ce qu'on entend ? C'est la nature du sol, c'est l'altitude, c'est l'orientation, c'est l'ensoleillement, c'est l'humidité. Et donc on comprendra évidemment qu'entre un Robusta du Brésil ou un Arabica d'Éthiopie, ça n'a absolument pas le même goût. Et je vous engage d'ailleurs à vous rapprocher aujourd'hui, non pas des cafés industriels qu'on vous propose,
bien sûr, faut aller
mais
chez des
vrais torréfacteurs.
En plus, il y en a plein maintenant dans les villes. Il y a plein.
C'est un métier qui est revenu très à la mode. On a redécouvert le café.
Il y a des bars à café.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous regardez le prix au kilo de ce que vous allez acheter, du café en grain que vous allez torréfier, enfin que vous allez moudre vous-même à la maison avant de le préparer, il vous reviendra infiniment moins cher que les capsules, parce que les capsules, les dosettes, le prix au kilo est absolument stratosphérique.
Non seulement ça, mais dans les capsules. Il y a, pardon, mais l'écologie, et puis surtout, il y a de l'aluminium.
Aussi, et donc, dans certains nombres d'entre eux, pas toutes.
Mais
il y en a aujourd'hui qui sont faites en matériaux recyclables.
Mais il y a celles qu'on peut faire soi-même en mettant son petit café dedans, et puis c'est insupportable parce qu'on se brûle.
Il faut avoir beaucoup de temps.
Je milite aussi pour le retour d'autres manières de faire du café.
Militant aujourd'hui.
Non, mais c'est-à-dire, redécouvrons l'appareil à piston, vous savez.
Oui, mais
ce fameux appareil.
Le café italien.
Si je puis me permettre, dans le truc à piston, vous mettez le Mocha du Négus.
Voilà.
C'est-à-dire, vous le prenez, mais votre Mocha du Négus, vous le mettez au fond et vous faites la pression, vous mettez l'eau chaude, et ça fait un café qui est à la fois onctueux et plein de saveurs et d'arômes.
Et le Mocha a aussi donné son nom à une machine italienne que vous connaissez, vous savez, cette petite machine en fer qu'on met directement bien sur le feu, et l'eau, le café remonte à l'intérieur. Ouais. Et ce sont d'autres manières d'exprimer le café, même le café filtre aujourd'hui revient à la mode, et sur certains types de café, il est très intéressant. Il n'y a pas que la machine à espresso qui donne une lecture du café. Mais
une lecture du café, ça je vais la ressortir au prochain dîner. Tu vois, la machine, elle donne une lecture du café, mais ce n'est qu'une lecture parmi d'autres.
Oui.
Je le ressortirai.
Parce que nous, souvent, on le boit alors qu'on devrait le lire, en fait. Ça, Georges Clunet, il ne voit pas.
Il ne dit pas.
C'est vraiment l'américain de base.
Voilà, bah écoutez, redécouvrez le café.
Une de vos meilleures chroniques, Olivier. Passionnante sur le café.
Vous n'aviez pas une recette
Le gâteau Mocha, on n'a plus le temps ?
On n'a plus le temps, mais je le mets sur Internet.
D'accord. Mais c'est le gâteau avec les petits lus ?
Alors, vous savez, c'est le gâteau avec une génoise et une crème au beurre au café.
Mais c'est fabuleux, ça.
Ah, vous voulez que je revienne avec
Mais on reviendrait parce que c'est mon gâteau préféré. C'est ce que ma maman me fait quand je rentre la voir à Genève.
Je reviendrai demain avec le gâteau.
Super. Eh bien, merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes.
Une tranche d'or.
Mais pas du tout. C'est un gâteau très simple, très populaire. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, je vais vous dire, ça va pas être du gâteau.
Ah non, là non.
On va tenter quand même la lutte finale. On va jouer avec l'histoire.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Alors, Olivier, vous êtes à égalité toujours avec Mathieu. Et là, maintenant...
Ça rigole plus.
Sur le tableau dit de la Vierge et de l'enfant entouré d'anges, Jean Fouquet est représenté par cette huile sur bois la Vierge sous les traits d'Agnès Sorel. Peint vers 1450, c'est un diptyque. Nous parlons de ce que l'on peut observer sur le volet droit. Agnès Sorel dévoile 0, 1, 2 ou 3 saints. Je parle des saints de la poitrine. Oui, parce que, évidemment, les saints sont très présents, mais...
3, ce serait un mutant. Mais
En gros, est-ce qu'elle n'en montre aucun, 1 ou 2 ?
Bon, c'est un peu la loterie parce que je ne vois pas le tableau là comme ça. Bon, je vais dire qu'elle, à cette époque-là, elle n'en montre aucun.
Bon, enfin, on en aurait parlé sinon.
Un, non ? Si, elle en montre un. Déjà, qu'il ait osé montrer la maîtresse du roi sous les traits de la Vierge, bon, c'était un peu audacieux. Mais en plus, en découvrant un saint, là, c'est carrément inégalé. Une audace folle. Alors Mathieu, au 5e siècle avant Jésus-Christ, ça c'est votre période.
5e siècle avant Jésus-Christ, oui.
Il y a eu un affrontement entre l'Empire des Perses achéménides et Athènes. On a appelé ça les guerres merdiques.
Les guerres médiques.
Médiques.
Vous essayez de me piéger ? Les guerres médiques, vous avez déjà trahi votre la blague de la question,
oui,
c'est
exactement.
Ça ?
Exactement.
Bah donc ça me fait le
il
point.
Il a le point, il a le point.
Quoi ?
J'ai déjoué le truc. C'était quoi votre question posée là ?
Est-ce qu'elle s'appelait merdique ou médique ?
Non, mais c'est quoi cette
question ? C'était vraiment la question, ça ?
Oui.
Est-ce que la guerre de 39-45, c'était la troisième ou la deuxième ?
Non, sincèrement, quoi.
Vous devriez remettre ce point en jeu.
Quel est le point de la fusion de l'hydrogène ?
J'ai dit la question de la vie est facile. Aujourd'hui, le premier fils de William et Kate, Cambridge, George de Cambridge, est donc troisième dans l'ordre de succession au trône britannique. Est-ce qu'il a été allaité par sa maman Kate ?
Il n'y a pas de contrepétrie.
Non. Je dirais que oui. Ah oui, parce qu'elle l'a annoncé officiellement que... Elle lui avait donné le sein, etc., qu'il avait grand appétit, voilà. Alors, nous avons donc, c'est pas moi qui fais la question, je refuse toute responsabilité. Entre Mathieu et David, la question qui départage. Sur Hollywood Boulevard se trouve le fameux Walk of Fame. En 2019, on comptait officiellement 2621 étoiles. Mais combien de chiens ont leur étoile? Sur le Walk of Fame.
Combien de chiens ont leur étoile?
Il y a des chiens célèbres au cinéma, mais ils n'ont pas tous leur étoile.
Ok.
Moi je dis 3.
Et 5. Ah bah voilà, ils sont à égalité les deux. C'était 4. On est mal.
C'est vraiment le quiz de la loose aujourd'hui.
Un point chacun.
Un point chacun. D'accord, bah je prends.
Vous reprenez le leadership.
Et je me rapproche d'Olivier Pouls.
Exactement.
Très très bon quiz, alors du coup, ça me convient. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était extrêmement dépaysant aujourd'hui. Stéphane, est-ce que vous connaissez Bornéo ? Quel resort vous nous conseillez là-bas ?
Ah non, moi j'ai jamais dépassé le périph, vous savez.
Oui, bien sûr. Vous êtes jamais allé à Bornéo ?
Si.
Oui. Non ? Pourtant, ça avait l'air de vous faire rêver. Là.
Oui, ça me fait rêver, oui. Mais vous savez, c'est très humide. Je voulais aller chez le sultan de Brunei, parce que j'aime bien, il a un côté un peu bling-bling.
Oui,
il sait recevoir. C'est-à-dire, même la pauvre mariée, lorsqu'elle se marie, elle a un bouquet de fleurs, mais c'est pas vraiment des fleurs, c'est des tiges en or avec des pierres précieuses, des diamants, etc. Je regarde ça à chaque fois. Elles ont des diadèmes incroyables, c'est les derniers qui achètent des diadèmes encore place Vendôme. Et alors, c'est too much, vous voyez, c'est... Et puis les robes et tout, il y a fil d'or, d'argent, et vas-y, je t'en rajoute et tout. Mais en même temps, il me plaît pas beaucoup.
Ah oui ?
Parce qu'autrefois, le Brunei, c'était cool, vous voyez, puis maintenant, c'est beaucoup moins cool.
Il a resserré la vis, malheureusement.
Ah bah oui, il faut...
Non, ça n'a plus aucun intérêt.
Faut pas s'amuser avec les...
Avec les lois.
Des choses interdites.
La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver demain, Stéphane, et que vous connaissez le programme.
Oui, ils sont bien morts dans leur bain.
Quelle horreur.
Ah, vous voyez, vous aussi. On réunit l'empereur romain Commode.
Il l'était ?
Non. C'est même l'un des pires tyrans que Rome ait connu.
Aïe.
Il est mort assassiné dans son bain. Et franchement, il l'avait bien cherché, comme dirait... enfin bon...
Comme dirait qui, Stéphane ? Vous pensez à qui ?
Ben, comme dirait Biden sur Poutine.
Ouais, je vois un engagement politique, oui, c'est bien.
Puis Jim Morrison, le leader des Doors, qui avait laissé la porte de la salle de bain ouverte. Ah. Alors on l'a retrouvé dans son bain, lui aussi inanimé, après une vie qui, elle, l'était davantage animée.
Et sa vie, elle, était animée aussi, Stéphane, je vous raconte, Domino Harvey, une ex-mannequin devenue chasseuse de primes aux États-Unis, qui a, vous l'avez compris, mal fini.
Ah bon, elle a fini où ?
Bah dans son bain. Stéphane, c'est le thème de l'émission. Alors ce soir, prenez plutôt une douche. À demain, Stéphane. À demain, les amis.
À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.